Vous écoutez, on lit pour vous.
Les coops d'habitation s'adaptent à la crise du logement. Un texte de Zachary Goudreau paru le 10 janvier 2025 dans Le Devoir. Les listes d'attente s'allongent dans les coopératives d'habitation, prisées non seulement par les personnes à faible revenu, mais aussi par une classe moyenne qui occupe une part croissante de ces logements de plus en plus abordables par rapport au marché privé. Au moment où les offices d'habitation peinent à répondre à la demande des locataires à faible revenu et que les loyers grimpent en flèche sur le marché privé, les listes d'attente s'allongent dans plusieurs coopératives d'habitation du Québec. À l'époque, quand je me suis inscrit, ça prenait 5 ans pour entrer dans une coop. Maintenant, ça prend encore plus de temps que ça, lance Marc Coulombe, président du conseil d'administration de la coopérative Légalitaire, qui compte 24 logements situés dans le plateau Mont-Royal. On reçoit 30 demandes par mois, donc plus de 300 par année, et notre coop est pleine, confie-t-il. Tout comme d'autres acteurs du milieu, M. Coulombe constate que plusieurs ménages se tournent aujourd'hui vers des coopératives d'habitation davantage, pour des raisons économiques que par conviction. Or, le succès des coopératives d'habitation à offrir des loyers abordables s'inscrit dans le fait que leurs membres s'impliquent en moyenne 14 heures par mois pour réaliser diverses tâches de gestion et d'entretien au sein de leur immeuble. Car plus on est obligé de dépenser de l'argent pour des services, plus les prix augmentent dans les coops, résume M. Coulombe. Les gestionnaires de coopératives d'habitation sont ainsi confrontés à un dilemme lorsque vient le temps de trouver de nouveaux occupants pour un appartement laissé vacant dans leur immeuble. Est-ce que je veux aider quelqu'un à sortir du marasme économique ou est-ce que je veux prendre quelqu'un qui a les compétences pour être dans une coop? Illustre Marc Coulombe. Le défi, c'est de démêler les gens qui ont juste besoin d'un logement pas cher, point, et ceux qui comprennent l'engagement des membres que les coops impliquent, constate lui aussi Patrick Préville, directeur général de la Fédération de l'habitation coopérative du Québec, FHCQ. Actuellement, on se retrouve avec beaucoup trop de gens qui n'ont pas nécessairement les valeurs coopératives, mais cherchent un appartement pour loger leur ménage de façon abordable, ce qui menace de nuire à la qualité de l'entretien et de la gestion de certaines entreprises collectives, relève-t-il. M. Préville souligne ainsi l'importance pour les gestionnaires de ces immeubles d'être prudents dans leur sélection de candidats afin de prioriser ceux qui sont prêts à se mobiliser pour effectuer des tâches. Si on ne fait pas ça, on s'en va dans un mur et des coopératives pourraient à terme fermer leurs portes, prévient-il. Accommoder la classe moyenne. En 2022, un logement de 2 chambres à coucher était offert en moyenne à 596 $ par mois dans les coopératives du Québec. Une partie des logements de ces entreprises collectives sont par ailleurs subventionnés, ce qui permet à leurs locataires à faible revenu de débourser 25 % de leurs revenus pour se loger. Entrer dans une coopérative d'habitation n'a d'ailleurs jamais été aussi intéressant d'un point de vue économique. Déjà en 2022, un rapport de la Fédération de l'habitation coopérative du Canada soulignait que l'écart entre le prix à débourser pour occuper un logement dans ces entreprises collectives et celui demandé sur le marché privé était passé de 25 % à 33 % entre 2006 et 2021. Un écart qui a continué de se creuser depuis partout au pays, y compris au Québec, où les loyers dans les coopératives d'habitation ont augmenté de 2,6 % en moyenne par an entre 2017 et 2022, soit à un rythme moins élevé que le marché privé. Dans ce contexte, les coopératives d'habitation deviennent de plus en plus attrayantes pour des membres de la classe moyenne qui, jusqu'à récemment, se seraient contentés du marché privé, mais souhaitent maintenant trouver leur place dans ces entreprises collectives dans l'espoir de réduire le poids de la location d'un logement dans leurs finances. Des gens qui ont plus de revenus et qui veulent garder leur train de vie malgré la hausse du coût de la vie et des loyers Ce sont des demandes qu'on voit plus souvent, confirme Marc Coulombe. Résultat, la part des ménages gagnant 70 000 $ et plus est passée de 6 % en 2017 à 15 % en 2022, selon la plus récente enquête socio-économique de ses membres réalisée par la Confédération québécoise des coopératives d'habitation, CQCH. Des locataires qui s'accrochent. En parallèle, la part des locataires de ces bâtiments qui ont un revenu inférieur à 20 000 $ est passée de 37 % à 19 % entre 2017 et 2022. Une situation qui pourrait être attribuable à l'intérêt grandissant de ménages relativement bien nantis pour ce type de logement, mais aussi au fait que les membres de ces entreprises collectives y restent de plus en plus longtemps. Les gens ne veulent pas quitter la coopérative parce que s'ils partent, leur loyer va augmenter de 1 000 $ par mois, illustre la directrice générale de la CQCH, Sandra Turgeon. Une situation qui contribue à allonger les délais pour les personnes en attente d'un logement dans une coop, selon elle. Ce sont ainsi 25 % des locataires d'une coopérative qui, en 2022, y demeuraient depuis 20 ans ou plus, selon les données de la CQCH. En 2017, ce pourcentage s'élevait à 14 %. Or, un locataire qui a été accepté dans une coopérative d'habitation lorsque ses revenus étaient faibles n'en sera pas retiré si, dans les années et décennies suivantes, sa situation financière s'améliore considérablement. Il conserve son « droit au maintien dans les lieux », explique Mme Turgeon, une analyse que partage M. Préville. Ce sont des ascenseurs sociaux, les coopératives. Il y a beaucoup de gens qui vont faire le choix d'y rester, même si, avec le temps, leur situation financière leur permettait d'opter pour le marché privé, relève le directeur général de la FHCQ. Les gens devraient-ils partir sur la seule base de leur salaire? Je dirais que non, tranche-t-il. Sandra Turgeon assure cependant que la rémunération est un facteur important qui est pris en considération dans le choix des candidats admis dans les coopératives d'habitation. Entre deux candidatures équivalentes, la personne ayant le moins de revenus sera choisie, assure-t-elle. Les coopératives sont là pour les gens qui sont dans le besoin. Qui est admissible à une coopérative d'habitation? Les critères d'admission dans une coopérative d'habitation au Québec varient d'une coopérative à l'autre, chacune d'entre elles gérant sa propre liste d'attente selon ses propres règles. La loi sur les coopératives prévoit toutefois que les membres de ces immeubles doivent avoir fait une demande d'admission et voir leur candidature approuvée par un conseil d'administration avant d'y être logés. De façon générale, un des principaux critères de sélection comprend l'engagement des candidats à s'impliquer dans la gestion et l'entretien de la coopérative. Le revenu est aussi pris en considération. Nombre de ces immeubles privilégiant les personnes ayant un statut socio-économique précaire. Une partie des logements des coopératives d'habitation sont par ailleurs subventionnés et offerts uniquement à des personnes en situation de pauvreté, qui peuvent alors débourser 25 % de leurs revenus pour se loger. C'était « Les coops d'habitation s'adaptent à la crise du logement », un texte de Zachary Goudreau, paru le 10 janvier 2025 dans Le Devoir.
Pourquoi les juges entérinent-ils parfois à contre-cœur certaines peines clémentes? Un texte de Louis-Samuel Perron, paru le 19 janvier 2025 dans La Presse. Un juge déplore la clémence d'une suggestion commune de peine, mais finit quand même par l'imposer aux délinquants. Ce scénario, loin d'être rare, soulève des questions chez nos lecteurs. Pourquoi les juges suivent-ils toujours, ou presque, les suggestions communes de peine? Parce que sinon, le système s'effondrerait. Nos explications. Comment fonctionne l'imposition d'une peine? Quand un accusé est déclaré coupable d'un crime, La défense et la couronne présentent au tribunal des arguments pour justifier la peine réclamée en relevant les facteurs aggravants et les facteurs atténuants du dossier. Le juge bénéficie alors d'une grande latitude. Il doit suivre des principes cardinaux pour déterminer une peine individualisée et proportionnelle en trouvant notamment le juste équilibre entre la dénonciation, la dissuasion générale et la réinsertion sociale du délinquant. Il doit aussi tenir compte de la jurisprudence et des fourchettes de peine des guides établis par les tribunaux supérieurs. Les juges sont donc libres d'imposer la peine de leur choix. Le juge a toujours le dernier mot sur la peine, mais en pratique, il est presque toujours tenu d'entériner une recommandation commune de peine présentée par des avocats d'expérience de la couronne et de la défense. Même si le magistrat estime que la peine est très clémente et qu'il en aurait imposé une plus sévère, il devra l'entériner, sauf dans de rares cas. Ces exceptions se comptent sur les doigts d'une main dans les dernières années au Palais de justice de Montréal. En décembre dernier, le juge Antoine Piché a imposé des peines deux fois plus sévères dans un dossier d'armes à feu et de fentanyl. En 2023, le juge Manlio Del Negro a refusé d'imposer la peine bonbon suggérée par les partis pour un néo-nazi qui fomentait la haine contre les Juifs. Une décision portée en appel. Qui a décidé qu'une suggestion commune était presque inattaquable? La Cour suprême, en 2016, dans l'arrêt Anthony Cook, a placé la barre très haut. Une suggestion commune de peine doit déconsidérer l'administration de la justice ou être contraire à l'intérêt public pour qu'un juge s'en écarte. Les recommandations communes sont essentielles au fonctionnement du système de justice, insiste la Cour suprême. Sans elles, notre système judiciaire s'effondrerait sous son propre poids. Rien de moins. Car la quasi-garantie qu'une suggestion commune de peine sera suivie par le juge comporte un avantage crucial. Elle encourage les accusés à plaider coupable et permet au système de justice d'économiser des ressources. Un juge ne doit donc s'écarter que rarement d'une recommandation commune. Pourquoi la couronne accepte-t-elle parfois une suggestion commune clémente? Il faut garder en tête qu'une recommandation commune de peine est le fruit d'une négociation secrète entre l'avocat de la défense et le procureur de la couronne, par exemple. La couronne va offrir d'abandonner un chef de voie de fait si l'accusé plaide coupable à un chef de menace. S'il accepte, il écopera de 90 jours de prison. L'accusé pourrait se dire que c'est une bonne entente, car il risque 6 mois de prison s'il est reconnu coupable sur toute la ligne. Dans l'arrêt Anthony Cook, la Cour suprême cite 2 exemples où une peine très clémente pourrait être dans l'intérêt public. Si elle reflète une faille dans la preuve du ministère public ou si l'accusé décide de collaborer avec la police. Ainsi, la couronne pourrait déterminer qu'une peine clémente est préférable à un acquittement potentiel. En outre, la certitude a un prix. Pourquoi les avocats s'entendent-ils aussi souvent? Parce que les procès sont l'exception dans notre système judiciaire. Près de 4 causes sur 5 se concluent au Québec par le plaidoyer de culpabilité de l'accusé. C'est même 94% des condamnations criminelles qui découlent d'un plaidoyer de culpabilité. Et dans la plupart des cas, l'accusé plaide coupable car il a l'assurance que le juge va entériner la suggestion commune de peine négociée par les avocats. Si la moitié de ces accusés décidaient demain de tenter leur chance lors d'un procès, le système de justice serait submergé. Il n'y a donc aucun problème avec les suggestions communes de peine? Pas tout à fait. Cette pratique manque de transparence et sous-estime les conséquences du sous-financement du système judiciaire, fait valoir Chloé Leclerc, professeure titulaire à l'École de criminologie de l'Université de Montréal et directrice du Centre international de criminologie comparée, CICC. Certains avocats, sous pression, coupent les coins ronds lors des négociations de peine, faute de temps ou en raison de la faible rémunération accordée au mandat d'aide juridique, note-t-elle. Dans ses recherches, Chloé Leclerc a découvert que des accusés se sentent parfois forcés de plaider coupable, sans comprendre toutes les conséquences de leur décision. C'était « Pourquoi les juges entérinent-ils parfois à contre-cœur certaines peines clémentes ?» un texte de Louis-Samuel Perron, paru le 19 janvier 2025 dans La Presse.
Où déferlera encore la vague verte d'Amérique latine ? Un texte d'Augustina Ordoqui, paru le 2 décembre 2024 dans Les Glorieuses. Le Parlement chilien devrait se prononcer sur la législation du droit à l'avortement avant la fin de l'année. En juillet, le président de gauche, Gabriel Boric, a promis qu'il présenterait en décembre un projet de loi visant à légaliser la procédure dans ce qui constituera la troisième tentative d'élargissement de l'accès à l'avortement dans le pays au cours de ces dernières années. En 2021, une loi autorisant l'interruption volontaire de grossesse, IVG, jusqu'à 14 semaines, n'a pas été adoptée par le Parlement, tandis que les électeurs et les électrices ont rejeté une nouvelle constitution qui aurait garanti les droits en matière de sexualité et de procréation lors d'un référendum en 2022. Mais cette fois-ci, les féministes pensent que les choses pourraient être différentes. Même si la droite a renforcé son pouvoir lors des élections régionales d'octobre, elles estiment que des avancées sont encore possibles. Xiomara Molina, porte-parole du mouvement Assemblée permanente pour la légalisation de l'avortement, cite l'adoption par le Parlement d'un système de reconnaissance du travail de soins, Chiliquida, d'une nouvelle loi contre les violences sexistes et sexuelles, et d'une mesure visant à accorder des allocations aux enfants des victimes de féminicides comme autant de succès majeurs en matière de droits des femmes, malgré un contexte politique difficile. Depuis l'échec du référendum constitutionnel, les organisations féministes chiliennes travaillent avec les membres du Parlement et les ministères de la Santé et de l'Égalité des genres afin de recueillir du soutien en faveur de la réforme du droit à l'avortement. Jusqu'en 2017, le Chili était l'un des rares pays au monde à interdire totalement l'avortement en toutes circonstances, une loi qui remontait à la dictature d'Augusto Pinochet. Cette situation a changé lorsque l'ancienne présidente, Michelle Bachelet, a instauré une loi autorisant les interruptions de grossesse dans des circonstances très limitées, en cas de risque pour la vie de la patiente, si le fœtus n'est pas viable, ou en cas de viol. Même ces exceptions ne sont autorisées que jusqu'à 12 semaines, ce qui contraint jusqu'à 150 000 personnes chaque année à subir des avortements dans des conditions dangereuses. Depuis, l'Amérique latine a été submergée par la vague verte. Des mouvements féministes qui ont eu recours à des litiges stratégiques, à des pressions politiques et à des manifestations massives dans les rues pour remporter des victoires majeures en matière de droits sexuels et reproductifs sur l'ensemble du continent, de l'Argentine à la Colombie, en passant par le Mexique. Xiomara Molina, qui aide depuis des années les femmes ayant besoin de recourir à l'avortement, estime que bien que l'extrême droite prenne de l'ampleur au Chili, la vague verte poursuit sa progression. De toute façon, aujourd'hui, Les femmes peuvent s'exprimer d'une façon qui leur était impossible il y a 10 ans, dit-elle. Il y a une transformation des mentalités, qu'il n'est pas acceptable de se faire violer et que nous avons le droit d'avorter, des choses qui, il y a 10 ans, étaient vues différemment. Victoire dans les tribunaux. Les militantes de la vague verte ont adopté différentes stratégies en Amérique latine en fonction du contexte propre à chaque pays. En Argentine, où l'avortement a été légalisé en décembre 2020, les activistes se sont concentrés sur la modification de la loi au Parlement en mettant l'accent sur le changement de l'opinion publique. En Colombie, le mouvement national Causa Justa, Juste Cause, a obtenu la dépénalisation de l'avortement par une décision de la Cour constitutionnelle en février 2022. La Cour suprême du Mexique a dépénalisé l'avortement en septembre 2021 en donnant à chaque État le pouvoir d'adopter sa propre loi. Les féministes ont désormais obtenu le droit à l'avortement dans 18 des 32 États du pays. Alors que le Chili s'efforce de modifier sa législation par l'intermédiaire du Parlement, comme l'a fait l'Argentine, les féministes équatoriennes cherchent à suivre les traces de la Colombie et à obtenir le droit à l'IVG jusqu'à 24 semaines de grossesse par le biais des tribunaux. Au début de l'année, 8 organisations se sont réunies pour former le mouvement Justa Libertad, Liberté Juste. En mars, le groupe a déposé une pétition visant à faire disparaître complètement l'avortement du code pénal. Actuellement, le code pénal prévoit des peines de 6 mois à 2 ans de prison pour les personnes qui ont recours ou pratiquent un avortement. Jusqu'en 2021, l'interruption de grossesse n'était autorisée qu'en cas de risque pour la vie de la patiente ou de viol d'une femme handicapée. Cette année-là, un arrêt de la Cour constitutionnelle a étendu cette exception à toutes les victimes de viol. L'Amérique latine a traditionnellement suivi un modèle consistant à obtenir petit à petit des exceptions pour interrompre une grossesse, explique Valesca Giriboga, porte-parole de Justa Libertad. Mais nous nous sommes rendus compte que ce modèle n'était pas suffisant, car il continuait à créer des obstacles à l'accès universel et légal à l'avortement. C'est pourquoi Justa Libertad vise désormais une dépénalisation totale jusqu'à 24 semaines, ce qui ferait de la loi équatorienne sur l'avortement l'une des plus progressistes au monde. Comme en Colombie, Justa Libertad a opté pour une action en justice stratégique parce que le Parlement est très conservateur en ce qui concerne les droits sexuels et reproductifs. Les représentants devraient se saisir des revendications sociales, mais ce n'est pas le cas en Équateur, explique Valesca Giriboga. Nous savons que les tribunaux peuvent soit renforcer ces droits, soit se montrer rétrogrades, comme aux États-Unis, et nous savons que les juges n'ont pas de délai à respecter pour étudier notre requête. Mais ce tribunal n'a mis qu'un an à statuer sur l'exception pour les cas de viol grâce à notre mobilisation et à la forte pression des médias, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui avec Justa Libertad, explique-t-elle. Nous le faisons pour nous-mêmes, pour nous toutes et tous. Nos corps et nos droits ont toujours été contestés. Faire face à la menace de l'extrême droite. Les féministes brésiliennes se battent également pour garantir les droits sexuels et reproductifs par la voie judiciaire. En septembre 2023, la présidente de la Cour suprême, Rosa Weber, a ouvert un vote sur la dépénalisation de l'avortement jusqu'à 12 semaines. Soutenant que l'interdiction de l'avortement dans le code pénal est inconstitutionnelle. Les juges ne se sont pas encore prononcés. Le code pénal du pays prévoit actuellement des peines d'1 à 3 ans d'emprisonnement pour les personnes qui pratiquent des IVG. il existe trois exceptions. Si la vie de la patiente est en danger, si la grossesse est due à un viol et si le fœtus est atteint d'anencéphalie, une maladie qui affecte le développement du crâne et du cerveau. Le Brésil est encore ébranlé par le mandat du président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, de 2019 à 2022, et malgré l'élection du président de gauche, Luiz Inácio Lula da Silva, en 2022, le parti de Bolsonaro, le PL, est toujours le plus important à la Chambre des députés. Au début de l'année, les députés du PL ont tenté de faire adopter une loi qui aurait assimilé l'avortement à un homicide. Nous espérons suivre l'exemple de la Colombie, déclare Tatiani Araújo de l'organisation militante Réseau des travailleurs sociaux pour le droit de décider. Nous ne pouvons pas faire confiance au Parlement, dont les députés sont en majorité des hommes blancs, hétérosexuels, de droite et d'extrême droite. Pour sa part, Lula n'a pas indiqué clairement si son gouvernement soutiendrait ou non une loi sur l'accès à l'avortement au niveau national, même s'il a abrogé une réglementation de l'ère Bolsonaro qui n'autorisait le droit à l'IVG qu'aux victimes de viol. L'extrême droite a une position claire, contrairement aux partis de gauche, parce que leurs responsables politiques considèrent que le fait de donner leur avis sur l'IVG pourrait être utilisé par l'extrême droite contre le gouvernement, comme si cela mettait fin au débat, explique Tatiani Araújo. À chaque fois, nous, les femmes, sommes sacrifiées. Selon elle, les organisations féministes devront plaider leur cause devant la Cour suprême, mais aussi travailler à faire évoluer l'opinion publique, faire pression sur les représentants de l'État et descendre dans la rue pour faire progresser les droits sexuels et reproductifs, ou du moins pour se battre afin de ne pas perdre ce qui a été acquis. Tout en notant que les personnes qui avortent clandestinement ne peuvent plus attendre, elle est convaincue que son pays finira par être submergé par la vague verte. Nous allons devoir mener une bataille de longue haleine. Ce ne sera pas facile et cela risque de prendre du temps, mais c'est tout à fait faisable. C'était Où déferlera encore la vague verte d'Amérique latine, un texte d'Augustina Ordoqui, paru le 2 décembre 2024 dans Les Glorieuses.